Bonjour et bienvenue en Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
La personne de Jésus-Christ demeure au cœur du message de la Bible et de la foi chrétienne. Il est donc essentiel de comprendre sa vie et son enseignement, ainsi que le sens de sa mort et de sa résurrection.
C'est dans cette optique que nous continuons, en compagnie de Johan, notre étude sur l'évangile de Marc. Sandre va d'ailleurs nous lire Marc chapitre 5, versets 21 à 34.
Jésus regagna en barque l'autre rive du lac. Là, une foule immense s'assembla autour de lui sur le rivage. Survint alors l'un des responsables de la synagogue, nommé Jaïrus. En voyant Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia instamment.
« Ma petite fille va mourir. Viens lui imposer les mains pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. »
Alors Jésus partit avec lui, suivi d'une foule nombreuse qui le serrait de tous côtés. Dans la foule se trouvait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait été soignée par de nombreux médecins et en avait beaucoup souffert. Elle avait dépensé toute sa fortune, sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état avait empiré. Elle avait entendu parler de Jésus et dans la foule, elle s'était approchée de lui par derrière et avait touché son vêtement en se disant « Si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guérie. » À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle se sentit délivrée de son mal. Aussitôt, Jésus eut conscience qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et demanda « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent
« Tu vois la foule qui te presse de tous côtés, tu demandes « Qui m'a touché ?»
Mais lui continuait à parcourir la foule du regard pour voir celle qui avait fait cela. Alors, saisie de crainte et toute tremblante, la femme, sachant ce qui lui était arrivé, s'avança, se jeta aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit « Ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. Va en paix et sois guérie de ton mal. »
Merci Sandra et bonjour Johan.
Bonjour Yann et bonjour à tous.
Durant les deux dernières émissions, nous avons parlé de la façon dont Jésus fut un sauveur pour un homme, un étranger, qui était tourmenté par de nombreux mauvais esprits. Cet homme se trouvait dans une situation désespérée, mais Jésus vint vers lui et transforma entièrement sa vie.
C'est exact, Yann. Et dans ce qui nous reste du chapitre 5 de l'évangile de Marc, nous allons rencontrer deux autres personnes, tous deux confrontés à des situations tout aussi désespérées. L'une d'entre elles s'appelait Jaïrus. Il s'agissait d'un homme important et respecté de tous dans sa communauté, car en effet, il était responsable de la synagogue. Autrement dit, c'était un chef religieux dont la fille, gravement malade, était au seuil de la mort. Or, alors que Jésus était en chemin pour se rendre dans la maison de Jaïrus, le cours des événements fut interrompu par une autre personne, absolument désespérée. C'est de cette personne, qui est une femme, dont nous allons principalement nous entretenir aujourd'hui. Nous reprendrons le récit de Jaïrus et de sa fille la prochaine fois.
Qui était donc cette femme et pourquoi a-t-elle cherché secours auprès de Jésus?
Nous ne connaissons pas son nom. Toutefois, nous savons d'elle qu'elle souffrait depuis 12 ans de pertes de sang importantes. Elle était probablement aussi issue d'un arrière-plan aisé, car elle avait été en possession d'une fortune, qu'elle avait épuisée pour payer un grand nombre de médecins et toutes sortes de traitements dans l'espoir d'être guérie de ses hémorragies.
Mais toutes ces dépenses s'étaient avérées vaines, car, semble-t-il, elle souffrait toujours de ce même mal.
Malheureusement, oui. Ces pertes de sang devaient être fort gênantes et débilitantes sur le plan physique. Et j'ajouterais qu'elle devait aussi la faire souffrir à cause des exigences religieuses liées à son état.
Que voulez-vous dire?
Selon la loi de Moïse, en vigueur en Israël à cette époque, toute femme qui perdait du sang était considérée comme impure. De plus, aussi longtemps qu'elle souffrait de cet état, la femme ne pouvait participer à un culte religieux, car quiconque la touchait devenait à son tour impur. En conséquence, la femme de notre récit, parce qu'elle perdait continuellement du sang, était forcément exclue de la vie religieuse de sa communauté. Toute vie sociale lui était alors devenue fort difficile.
Une guérison lui permettrait non seulement d'aller mieux physiquement, mais aussi de réintégrer la société et de mener une vie normale.
C'est exact, Yann. Même aujourd'hui, certaines maladies engendrent des problèmes sociaux pour ceux qui en souffrent. Ce récit nous rappelle donc que Jésus voit la souffrance des hommes, qu'il comprend ceux qui sont affligés et qu'il est puissant pour les délivrer et venir à leur secours.
La foi de cette femme est étonnante. Elle n'ose pas déranger Jésus, mais elle demeure convaincue que si seulement elle pouvait toucher son vêtement, elle serait guérie. Jésus, quant à lui, sentit que quelque chose d'extraordinaire s'était produit, et il voulait savoir qui l'avait touché. Mais quelle est l'importance de tous ces détails?
Nous pouvons comprendre la démarche de cette femme, qui désirait rester discrète. Elle souffrait, après tout, d'un problème bien embarrassant. Malgré tout, elle demeurait convaincue que pour recevoir la guérison et la purification, il lui suffirait de toucher Jésus. Telle était sa foi, sa confiance au Seigneur. Jésus voulut donc savoir qui l'avait touché et voulut parler à cette femme non pour l'humilier ni la ridiculiser, tout au contraire. En effet, malgré sa confiance en Jésus, cette femme avait peur et Jésus désirait donc la rassurer et la réconforter. Il aspirait à ce que cette femme reparte le cœur en paix, consolée. Voilà la raison pour laquelle il lui parla.
Merci, Johan, de nous avoir aidé à comprendre la situation de cette femme et la transformation que Jésus a effectuée en elle par cet acte de guérison et de purification. Mais quelles leçons pouvons-nous en tirer?
Cette femme craignait de déranger Jésus. Elle le voyait en compagnie d'un homme important et peut-être s'est-elle sentie sans valeur. Craignait-elle que Jésus l'ignore ou oublie sa souffrance? Si cela fut le cas, elle avait tort. Car aux yeux de Dieu, il ne se trouve ni petit ni grand. Tous sont aussi précieux. Dieu est grand. Il est suffisamment puissant pour écouter tout individu qui s'approche de lui. Sa compassion est sans limite. Il veut s'occuper de tout homme et de toute femme qui place leur confiance en lui, quels que soient leurs besoins. Cet incident avec la femme rendue impure par ses pertes de sang sert de parabole vivante, prouvant que Jésus peut enlever toute impureté qui nous sépare de Dieu. D'ailleurs, au chapitre 7 de l'évangile de Marc, Jésus va redéfinir ce qu'est l'impureté, pour souligner qu'il s'agit en fait de nos fautes, de nos mauvaises attitudes et de nos pensées dévoyées. Voilà ce qui nous rend impurs devant Dieu. Cette impureté morale et spirituelle nous sépare du Seigneur. Elle nous prive de sa communion. Toutefois, Jésus a prouvé dans le texte, lui aujourd'hui, qu'il dispose de l'autorité et du pouvoir pour rendre toute personne pure. D'ailleurs, par son acte de purification, la femme guérie put de nouveau fréquenter les lieux de culte et vivre une communion avec Dieu. De même, quand Jésus nous purifie de nos péchés, il nous réconcilie avec Dieu et nous devenons membres d'un grand peuple d'adorateurs et de serviteurs qui forment l'Église.
Mais comment recevoir cette purification de nos péchés?
L'exemple de cette femme est instructif. Elle osa surmonter ses craintes et elle s'approcha de Jésus. Elle avait épuisé toute autre forme de secours et finit par mettre sa foi en Jésus, car elle avait compris que lui seul pouvait venir à son aide. Il en est de même pour nous aujourd'hui. Jésus seul peut nous purifier de nos péchés. Toute autre solution s'avéra vaine et inefficace. Voilà pourquoi nous devons mettre notre foi en Jésus. Citons pour finir l'épître de Jean, chapitre 1, verset 9. « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. »
Merci, Johan. La prochaine fois, nous réfléchirons sur la suite de ce récit et découvrirons ce qui se passe avec la fille de Jairus. En attendant, Johan, nous vous disons au revoir.
Au revoir, Yann, et au revoir à tous.
Merci, Johan. À présent, nous allons commencer notre courte méditation biblique.
Elle s'inspire du psaume 84. Sandra va nous lire les versets 6 à 9 de ce psaume. Ensuite, notre invité Étienne nous fera part de ses réflexions.
Bienheureux les hommes dont tu es la force. Dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés. Car, lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils en font une oasis. et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. D'étape en étape, leur vigueur s'accroît et ils se présentent à Dieu en Sion. « Éternel, ô Dieu des armées célestes, entends ma prière. Veuille m'écouter, ô Dieu de Jacob. »
Nous avons appris la dernière fois que ce psaume était chanté par les pèlerins alors en route pour adorer Dieu dans le temple de Jérusalem. Cette deuxième strophe du psaume évoque deux expériences qu'ils vivaient alors qu'ils étaient en chemin vers la grande cité. Tout d'abord, au fur et à mesure qu'ils approchaient du temple, ils reprenaient des forces, leur vigueur s'accroissait. Pour beaucoup, le voyage vers Jérusalem était pourtant long et pénible. Toutefois, malgré leur fatigue, l'épuisement, ils regagnaient des forces. Pourquoi ? Car plus ils avançaient vers Jérusalem, plus le terme de leur voyage approchait. Ces gens avaient hâte de rencontrer Dieu, ils étaient désireux de l'adorer. Leur joie de voir ce jour arriver renouvelait leurs ailes, nourrissait leur enthousiasme, atténuait leur fatigue physique. Ensuite, en approchant de Jérusalem, ils côtoyaient sur la route de nouveaux pèlerins qui se joignaient à eux. Des foules immenses se formaient. Animés par le même objectif, ils s'encourageaient tous mutuellement, ils se soutenaient et reprenaient ainsi des forces. Le psaume évoque aussi la traversée des pèlerins dans la vallée des larmes, vallée qui, baignée par leur présence, devient une véritable oasis. Ce verset n'est pas facile à interpréter. Nous ignorons même où se trouve cette vallée. Toutefois, la leçon essentielle à retenir est celle-ci. Le passage de ces pèlerins réjouissait les personnes croisées sur les routes. Les croyants devenaient source de réconfort, de joie et de bénédiction pour quiconque les côtoyait. La vie chrétienne aussi peut être comparée à un pèlerinage, car le cheminement spirituel du croyant est comme un voyage dont la destination n'est plus le temple, mais la résurrection pour une vie éternelle dans la cité céleste. Quant à notre progrès spirituel sur les routes de la vie, deux leçons importantes se dégagent des versets lus. Nous avons besoin des autres et les autres ont besoin de nous. La foi chrétienne est une foi communautaire, une foi à vivre avec ceux qui partagent notre espérance, nos valeurs et nos objectifs. Si nous essayions de vivre notre foi en solitaire, en nous isolant de nos frères et sœurs, nous risquerions de nous affaiblir spirituellement. Si toutefois nous marchons avec d'autres croyants, notre vigueur s'accroîtra, nous nous fortifierons, nous ferons des progrès. De même, les autres ont besoin de nous. Alors, si nous vivons notre foi seuls, nous les priverons de tout le bien que nous pourrions leur apporter, de l'amour, des paroles d'encouragement ou de réconfort qu'ils pourraient recevoir. Sur la route de la foi, nous ne devons pas uniquement penser à recevoir, mais aussi à donner.
Merci Étienne pour votre participation aujourd'hui.
Étienne sera de retour la prochaine fois pour aborder la fin de ce psaume. En attendant, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.